Réflexion sur la procréation, Rimont, 26 février 1990, exposé du père Stéphane Marie.
Alors, cet après-midi, je vais essayer de vous parler un petit peu d'autres positions et d'objections. Mon rôle est un petit peu, non pas de mettre de la zizanie, mais de mettre du poivre dans la dispute. Alors, je vais essayer de vous donner quelques objections, quelques opinions, quelques difficultés aussi qu'on peut trouver dans l'une et l'autre des positions. Alors, je voudrais vous dire d'abord que je suis très très heureux de l'esprit de cette dispute et de son existence, et je souhaiterais vraiment beaucoup que chaque fois qu'il peut y avoir des opinions divergentes, on puisse renouveler ça. En tout cas, je peux vous dire que c'est une grande richesse pour les prieurés qui sont présents. On a pu en discuter et c'est vraiment l'occasion de se retrouver et de réfléchir ensemble sur des questions qui sont importantes. Alors, je voudrais dire aussi que bon, cette question a suscité, c'est vrai, une évolution dans ce que j'ai pu écrire sur ce sujet, puisque j'ai essayé de Dans une optique, c'est vrai, de tenir compte de la pastorale, de ce qu'on peut avoir en tant que prêtre à faire, c'est-à-dire aider et faire comprendre un petit peu aux gens pourquoi l'Église prend telle ou telle position. C'est souvent très très difficile, on ne peut pas seulement se contenter de dire « écoutez, l'Église dit ça, obéissez ». Il y a aussi une lumière de l'intelligence à donner, et c'est ça que j'ai voulu chercher, peut-être aussi pour aider l'Église à défendre sa position. Le point qui m'a beaucoup stimulé, ça a été quand notamment la Cato de Lille avait annoncé « Nous continuerons nos expériences parce que nous considérons que les arguments de Rome sont insuffisants ». Ça a été pour moi assez déterminant et j'ai voulu faire mon possible aussi pour aider à ce qu'il y ait plus d'arguments. Je sais que le cardinal Ratzinger a convoqué le recteur de la Cato de Lille et plusieurs professeurs là-bas. Et on m'a raconté comment ça se passait. Le cardinal Ratzinger essaye d'ajouter des arguments à ceux qu'il a donnés dans Donum Vitae. Voilà. Alors, donc, il en cherche. Hein, il cherche vraiment tous les raisonnements pour qu'on puisse rendre compte de la position de l'Église jusqu'au bout. Alors, je souhaiterais beaucoup que dans ces écrits, tout ce que j'ai pu faire, on les interprète en fonction plutôt de ce que je dirais aujourd'hui ou de la conclusion de notre dispute. Alors, ça concerne notamment un petit texte qui va passer dans les cahiers de l'école Saint-Jean que j'ai donné à Marc Balmès il y a un an, peut-être moins d'un an, 8 ou 9 mois. Et j'ai complètement oublié ce texte et j'avais demandé à Marc si c'était possible de le retirer et c'était trop tard. Bon, donc ce texte fait encore partie peut-être d'une étape, hein, je m'en excuse, et j'espère pouvoir donner autre chose un petit peu plus tard, bien sûr dans la ligne de ce que nous donne notre père Marie-Dominique Philippe. Si ça s'oppose, j'ai essayé de vous montrer que ce n'est pas forcément opposé, hein, et qu'il peut y avoir peut-être une synthèse qui doit nous intéresser au niveau de l'hypothèse, des hypothèses. Alors ce que je vais vous dire ce soir, c'est, pour moi, il y aura une hypothèse. Il y aura une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ça qui est ma certitude, mais je dis que c'est ce qui pourrait être une hypothèse, peut-être dont on n'a pas suffisamment parlé encore jusqu'à présent. Alors je vais commencer par quelques petites notes. Donc vous avez le plan ici de ce que je vais vous dire. Petite introduction. Bon, je l'ai faite. Point de vue historique. Alors Hippocrate, Aristote. Je crois que là, il y a effectivement, au point de vue historique, deux grands courants. Hippocrate était partisan de l'animation immédiate, ou s'il ne parlait pas d'âme, en tout cas, de la vie dès le point de départ. Il allait même jusqu'à dire que l'embryon était formé de tout petits éléments, de petites pattes, de petits bras. Bon, enfin, c'était vraiment le petit homme en miniature. Bon. Et puis, ce sont les pères grecs. Alors, je suis obligé, dans ce point de vue historique, de rentrer un tout petit peu en histoire de la théologie, en histoire des théologiques, mais ça reste, quand même, pour arriver à saint Thomas. Ce que je voudrais juste vous expliquer, c'est que je suis obligé de faire un tout petit peu un petit détour en théologie. Donc, dans les pères de l'Église, il y a eu saint Grégoire de Nice, deux autres qu'on oublie aussi, saint Basile et saint Maxime le Confesseur. Saint Maxime le Confesseur, hein, qui a été là aussi très 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 clair, très net, il dit si l'embryon si l'embryon n'a pas d'âme spirituelle au point de départ, alors il faudra qu'on réfléchisse aussi à cette objection, il disait, l'homme engendre un animal, et ce n'est pas digne de l'homme. Bon, Maxime le Confesseur, hein, je crois que c'est important de le préciser. Saint Basile aussi, qui disait, l'avortement devient un crime dès l'instant que l'embryon est animé, et il ne donnait pas de temps. Hein, il avait plutôt tendance à dire que c'était dès le point de départ. Et puis Grégoire de Nice, avec ses arguments qui lui sont propres, je pense que vous le connaissez davantage, puisqu'on en parlait plus souvent. Alors, donc, dans les pères de l'Église, si vous voulez, il y a trois... C'est la tradition grecque. Ce sont les pères grecs, essentiellement. Donc, ils sont rattachés à Hippocrate, jusqu'à Mélétius, ou Mélétius, qui n'est pas un saint, mais qui est classé dans les pères de l'Église, ou dans ceux qui ont apporté une doctrine aux pères de l'Église. Il y a une autre position, qui a été celle d'Aristote, sans doute issue de sa position, non pas de médecin, quoique Aristote aurait pu exercer la médecine, selon des documents, il aurait été accusé de charlatanisme. Charlatan, c'est quelqu'un qui opère sans diplôme. Alors, Aristote, donc, son père était médecin, lui, en tout cas. Bon, Aristote a sûrement, peut-être, exercé un petit peu la médecine. Et sûrement, son savoir médical, ou son approche de la médecine par son père, lui a donné un certain nombre de données, notamment cette donnée assez particulière, c'est que l'embryon ne commence à vivre réellement, hein, il explique ça dans la politique, que le 40e jour pour les garçons et 90e jour pour les filles. Ouais. On prend plus son temps. Ouais, bon. Alors, donc, je l'ai mis ici dans l'histoire des animaux. Il dit ça dans l'histoire des animaux. Alors, ça, c'est sa première position. Dans la politique, il va dire 40 jours, enfin, il va dire que l'avortement peut être possible avant ces 40 jours, ces 90 jours, puisqu'il y a, il n'y a pas la vie au sens fort, au sens substantiel. Hein. Alors c'est après, dans la génération des animaux, où Aristote va dire, mais si toutefois on arrivait à montrer que l'embryon était vivant avant ces temps-là, l'avortement deviendrait quelque chose à ne pas faire. Et c'est un texte, j'ai mis une petite flèche avec un point d'interrogation, qui n'a pas donné de suite, qu'on a oublié, et que je trouve très très intéressant, et qui montre qu'Aristote se réfère aussi, d'une certaine manière, aux données de la science pour affiner sa position. Hein, ce 40 jours et 90 jours, il les soumet d'une certaine manière dans un traité qui est postérieur, la génération des animaux est postérieure à la politique, il le soumet donc à la science, hein, à l'étude de la science. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va y avoir le traducianisme avec la position de Tertullien, on en a parlé ce matin, qui va obliger les pères latins cette fois. Cette ligne, ce sont les pères latins, ou c'est les théologiens latins. Ce sont les pères latins qui, en raison de ce qui s'est passé dans notre Occident, dans notre univers latin, eh bien, à cause du traducianisme, qu'est-ce que c'est traducianisme? Traducit, traducere, ça veut dire transducere, transmettre à travers. Ça consiste à dire que les parents transmettent l'âme spirituelle à leur enfant. Alors ça a été évidemment condamné par l'Église, parce que l'âme spirituelle ne peut venir que de Dieu, étant à l'image de Dieu. Donc, ce traducianisme va pousser les pères latins à prendre une position la plus prudente, c'est-à-dire qu'on va repousser l'animation, au point de vue historique, pour être sûr que les parents n'y soient pour rien. Donc, historiquement, on va repousser un petit peu ça, et c'est le cas pour Théodoré, Génate de Marseille, le pseudo-Saint-Augustin, c'est là aussi où il peut y avoir une ambiguïté chez Saint-Thomas, parce que je crois qu'il peut se référer à cet Augustin qu'il croit être Augustin, mais qui est un pseudo. Hein, il y a deux textes dans les œuvres complètes que nous avons aujourd'hui d'Augustin qui sont reconnus comme n'étant pas de Saint-Augustin. Et Cassiodore. Ensuite, il y aura un petit peu plus tard Saint-Anselme, Pierre Lombard et Hugues de Saint-Victor qui prendront cette animation médiate. Je vous signale simplement cette petite chose qui est intéressante. Parmi les pères de l'Église qui sont saints, tous ont professé l'animation dès la conception. Mais je dis ça simplement. Ça ne nous enlève pas de rechercher. Hein. Parmi les... Voilà, exactement. Alors, je signalerai simplement qu'il parle de l'animation dès la conception. Et ça, c'est très très intéressant. Il n'y en a pas un qui a loupé le mot là. Le mot conception. Animation dès la conception. Et évidemment, parmi donc les pères qui sont saints, tous ont parlé d'animation dès la conception. Alors, immédiate dès la conception. Hein, faut peut-être préciser, parce que je vais vous montrer à la fin, peut-être que l'on peut réfléchir au point de vue même épistémologique, c'est-à-dire philosophie appliquée à la science, si le mot conception est exact, hein, si la science sait bien ce qu'elle dit quand elle parle de conception. Et on essaiera peut-être là de voir ce que l'on peut dire. Bien. Ce qui explique en partie historiquement, mais je ne vais pas en rester à cette partie historique, une certaine position chez saint Thomas. Hein. Moi, je ne vais pas en rester uniquement à un point de vue historique. Mais je voudrais que vous voyez l'avalanche de choses qui s'accumulent du temps de saint Thomas. Donc, vous avez évité le traducianisme, l'Immaculée Conception qui n'est pas connue. Saint Thomas dit que Marie est immaculée à la conception du Christ, pas à sa propre conception. L'ambiguïté avec le pseudo-Augustin. La médecine qui continue, du temps de saint Thomas, à parler d'animation retardée. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, avec la découverte de l'ovule et des spermatozoïdes, des ovaires et des spermatozoïdes, qu'on va commencer à parler beaucoup plus en médecin et en médecine d'une vie immédiate. Ensuite, il y a un texte des Septante. Bon, je ne parle pas du texte hébreu, je dis du texte des Septante, qui porte une ambiguïté en Exode 21-22. Si un homme bouscule une femme alors que cette femme attend un enfant, si, tel que le texte est formulé dans les Septante, si l'enfant avorte mais que la femme ne meurt pas, il n'y aura qu'une petite amende. Mais si l'enfant, si la femme meurt, il y aura vie pour vie. Autrement dit, l'embryon ne semble pas compter beaucoup. Alors je signale, donc j'ai fait une petite étude dans un article qui est maintenant un petit peu vieux, donc sur le texte hébreu, qui lui ne fait pas, et ni le texte syriaque, ni le texte arabe, ni la Vulgate, ne font cette distinction. La Septante est tout à fait isolée, c'est-à-dire qu'on devrait normalement traduire si un homme bouscule une femme et qu'il ne s'ensuit rien, ni pour l'enfant, ni pour la femme. Autrement dit, si vous voulez, si on lit bien ce texte des Septante, en fait, c'est peut-être pas une objection. Hein. Mais en tout cas, il y a cette ambiguïté sur ce texte. Dans l'Ancien Testament, petit parallélisme aussi, qui a séduit, peut-être pas immédiatement saint Thomas, mais la scolastique, juste après. Dans l'Ancien Testament, la femme devait se purifier pour la naissance d'un enfant mâle 40 jours après la naissance. Et pour une fille, 80 jours après la naissance. D'où le parallélisme avec ce que nous sort Aristote. On est tenté de se dire, tiens, il y a une intuition. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est toute une accumulation qui va faire que saint Thomas va sûrement développer immédiatement, si vous voulez, cette animation retardée. Il va ajouter cette virtus, parce que pour lui, il n'y a pas deux âmes dans un même corps. Donc, je pense personnellement qu'il va y avoir... vous voyez, si l'homme a des spermatozoïdes, et donc il les abrite en lui avant de les donner à la femme... Eh bien, il porte en lui sa propre âme, plus, si les spermatozoïdes avaient une âme, des milliards et des milliards d'âmes. Voyez. Alors, c'est pour ça que le mot virtus, et je vais y revenir, peut être intéressant, c'est vrai, et que ça vient peut-être en complément. Je signale par rapport à ce qui s'est dit ce matin, que Aristote, lui, ne parle pas de virtus, il parle d'âme. Il emploie le mot psyché pour parler de l'embryon point de départ, psyché en puissance. Une âme qui passe en acte après avoir été en puissance, et il ne parle pas de virtus. C'est saint Thomas qui, prenant le mot âme en puissance, parle de virtus. Alors c'est intéressant, il y a une petite transformation du mot. Aristote reste avec le mot psyché. Alors ça sera une des questions que je poserai. Est-ce que le mot virtus, ou le mot âme en puissance, est-ce qu'on peut essayer de chercher? Parce que pour saint Thomas, si on regarde, il y a aussi un petit texte du De Potentia, je ne sais pas s'il était dans les textes de ce matin, qu'importe, où il dit la virtus, c'est à la fois quelque chose qui n'est pas inanimé, et étant donné que ce n'est qu'une âme en puissance, c'est aussi animé. Donc il dit à la fois que c'est animé, et à la fois il hésite, hein, parce qu'il y a l'âme en puissance. Donc il veut maintenir ce mot d'Aristote, âme en puissance, donc pas tout à fait âme, ou âme imparfaite, et en même temps dire que c'est aussi une âme, donc c'est pas tout à fait de l'inanimé. Donc pour vous montrer que la notion de virtus, elle va être très difficile à manier, mais je vais essayer de vous montrer quel statut peut-être on peut lui donner. Enfin, avec les objections que j'ai pu... Alors je vais vous parler maintenant de quelques objections au point de vue biologique. Alors les grandes objections au point de vue biologique auxquelles il faut qu'on se confronte sont ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire avec deux œufs. Ce qu'on appelait l'œuf, je me réfère à ce qui était dit hier soir, on peut réussir à en faire un seul. On a réussi ça chez les souris. Et puis on arrive à faire des chimères, comme ça. Alors vous avez des poucailles. C'est-à-dire, c'est le croisement d'un poulet et d'une caille. Alors, ça donne des animaux assez particuliers. Il y a des mouchèvres, des moutons et des chèvres. Alors, on arrive comme ça à faire des fusions. Chez l'homme, on n'a pas encore réussi. Là, il y a peut-être quelque chose qui coince, il faut essayer de savoir quoi. Mais vous voyez, c'est une objection, là aussi, à peut-être l'individualité ou l'autonomie du petit embryon au point de départ, hein, qui apparemment peut fusionner. Pour les jumeaux, autre objection, on l'a vu hier, je ne vais pas insister. Donc le petit embryon se développe, et puis jusqu'au 14e jour, il peut développer, il peut laisser échapper. Alors c'est là où je vais vous proposer aussi une petite étude critique. S'agit-il d'une division ou d'autre chose? Si je dis division, je montre donc qu'il y a un manque d'autonomie. La division dit imperfection, dit toujours un peu imperfection. Tandis que si on parle, par exemple, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut-être en parler. Si on dit génération, c'est à chercher, hein, je pose une question. Génération d'un jumeau. À ce moment-là, vu ce que disaient les anciens, celui qui engendre est parfait. Il y a perfection. Alors, il nous faut choisir au point de vue biologique. S'agit-il d'une division ou d'une génération? Les scientifiques, je voudrais au moins que vous notiez ça, ont tous choisi le mot division, le mot séparation. Le mot. Mais au fond, très peu ont employé le mot génération, ou même un mot qui existe dans les. Quand on prend. Je ne sais pas si j'ai le texte ici, mais la reproduction des éponges, ça se fait par scissiparité. C'est-à-dire que l'éponge bourgeonne une nouvelle petite éponge qui apparaît comme un polype, comme un petit champignon qui pousse sur l'éponge et puis qui se détache. Oui, la scissiparité. Alors, ce serait intéressant de réfléchir. Pourquoi a-t-on dit division, hein, qui réfère tout de suite nécessairement à l'imperfection? Je vous donne tout ça pour que vous réfléchissiez. Parce que là aussi, on se laisse faire par un langage qui n'est peut-être pas le propre du langage de la science. Là, la science peut-être abuse en disant division. De la même manière que quand elle dit que l'embryon est divisible, donc il n'est pas indivisible, donc il n'est pas individu, donc il n'est pas personne, est-ce qu'elle n'abuse pas? Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut répondre à cet argument. Je passe tous les points de vue. Ensuite, les échecs. Il est vrai que les petits embryons, bon, il y a différents chiffres, hein. Le professeur Giraud, hier soir, nous a dit 50% des embryons. Selon d'autres études, ça peut même être plus, hein. Ça peut aller jusqu'à 60-63% des embryons que la nature élimine. Pour ça que j'en ai mis trois, vous en mettez deux si vous voulez, ça n'a pas grosse importance, mais c'est un gros chiffre, c'est un très gros chiffre. Alors, donc les échecs, on voudrait donc dire, eh bien, le petit embryon n'est pas un être humain. C'était, je dirais, une des réflexions. C'est pour ça que j'ai mis bioéthique, c'est-à-dire qu'on réfléchit en homme d'éthique en fonction des échecs, des ratés, et puis on essaye de trouver une solution, si vous voulez, éthique, un peu phénoménologique, en fonction de ce dont je prends conscience. Oui. Bon. Alors, je voudrais signaler qu'il y a une très grosse objection à côté, qui est, s'il est vrai qu'il y a des hommes sur Terre depuis 50 000, 60 000 ans, possible, hein, j'en sais rien, mais il y a en tout cas des sépultures de Shanida en Iran qui remontent à 60 000 ans, où on voit un homme enterré dans un trou carré à l'entrée d'une grotte, dans la position de l'orang, celui qui prie les mains jointes, avec des fleurs en dessous et des fleurs en dessus, puisqu'on a trouvé des pollens, des restes de pollen en dessous et en dessus. À l'entrée d'une grotte, alors que c'est anti-animal, les animaux, ils se cachent pour mourir. Ils vont le plus loin possible, les animaux, hein, les éléphants, les chats, les oiseaux. Bon, eh bien là, on l'enterre à l'entrée d'une grotte, c'est-à-dire près d'une habitation. Donc tout cela, anti-animal, les fleurs, le côté gratuit, artistique, la position de celui qui prie, un trou carré, l'affection, hein, qui a entouré les fleurs exprimant l'affection, et puis aussi ce sens un petit peu de l'au-delà. Donc une sépulture qui remonte à 60 000 ans. C'est pour ça que, si vous voulez, je vous dis, s'il est vrai que l'homme est sur Terre depuis 60 000 ans, hein, eh bien, il faut noter que la mortalité infantile, depuis Néandertal jusqu'à nos jours, est à peu près de 50 à 60%. C'est-à-dire que du temps de Néandertal, pour avoir deux enfants, il fallait en avoir porté quatre ou cinq. Parce que c'était des grosses maladies infectieuses, il y avait une mortalité infantile assez colossale. Bon. Jusqu'en l'an 1900, hein, parce que le Moyen-Âge avait aussi une mortalité assez colossale, 40-50%. Il n'y a qu'au XXe siècle qu'on arrive à avoir une mortalité infantile faible. Donc vous voyez, ce que représente notre temps, notre siècle où la mortalité infantile est petite, par rapport à ce qu'il y a eu avant, si on prend une position, comment dire, de repli en se disant, eh bien, puisqu'il y a des échecs, je vais enlever l'humanité à l'embryon, à ce moment-là, il faut l'enlever assez tard. Il faut l'enlever quasiment à la naissance, à ce moment-là. Si on veut que tous ces embryons, hein, ne soient pas des êtres humains. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? Non ? Ça va ? Donc, c'est assez colossal. C'est un chiffre. Il y en a qui ne comprennent pas ? Je recommence. Certains ont dit, je ne dis pas que l'embryon est un homme parce qu'il y a beaucoup de pères dans la nature. Bon, je cite l'objection. Moi, je surenchéris. Je dis, eh bien, à ce moment-là, le fœtus non plus n'est pas un homme, puisque depuis 60 000 ans, vous avez la moitié de l'humanité qui y est passée. Depuis 60 000 ans, donc beaucoup plus que notre petit siècle. Il ne faut pas qu'on réagisse simplement dans nos 100 dernières années. Vous voyez, comme quoi, le problème ne doit pas se situer nécessairement dans une vision bioéthique. Hein, je crois qu'il faut qu'on recherche le problème, mais je vous donne tout ça pour que vous essayiez de réfléchir. D'autres nous ont dit, j'ai entendu ça, mais le Seigneur ne peut pas permettre que l'embryon soit un homme parce qu'il y a beaucoup d'avortements. Je vous signale qu'en 25 ans, depuis les libéralisations et les législations sur l'avortement, il y a peut-être eu quelques 80 millions d'enfants avortés. Hein? Bon, c'est un chiffre colossal et qui, évidemment, continue. 1000 par jour en France, seulement en France. Hein? Donc, là aussi, on pourrait se dire, ben, à ce moment-là, repoussons l'animation le plus loin possible, à la naissance s'il le faut. En Angleterre, la juridiction actuelle, c'est un bébé n'est un citoyen que si le cordon ombilical est coupé. Autrement dit, si la femme avorte, ça ne pose pas de problème. Mais si par contre, c'est pour ça que l'Angleterre était très en avance sur les avortements. Quand ce n'était pas permis en France, on allait toujours avorter en Angleterre. Hein, c'était... Bon. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez, on en arrive à ces positions, c'est que le bébé lui-même, à ce moment-là, ne serait pas encore une personne. Et tant que le cordon ombilical n'est pas coupé, on en arrive à ces trucs complètement aléatoires, tout à fait secondaires. Couper un cordon ombilical, ça fait un citoyen. Avant, c'est pas un citoyen. Si vous le tuez avant, pas de problème, on vous rembourse. Mais si jamais on le tue après la rupture de cordon ombilical, on va tout de suite en prison. C'est grave ce qu'on a fait. Alors ça fait des législations qui sont évidemment très, très aléatoires. Oui, pour que vous compreniez aussi que ce n'est pas toujours évident. Alors certains voudraient aussi éviter l'humanité de l'embryon de façon à pouvoir faire progresser la médecine. Argument hautement éthique. Celui que nous avait donné le professeur Jean Bernard à Paris, une conférence où était le père Philippe, il disait « La cellule biologique du petit embryon est une cellule immature, c'est-à-dire qui n'a pas encore toute sa spécificité ». Et justement, elle est totipotente. Elle peut faire autant une cellule de foie, de rein, de pied, de main. Bon. Donc, elle est totipotente. Et elle ressemble à une cellule cancéreuse. Elle a des propriétés de cellule cancéreuse, qui est aussi une cellule immature. Le résultat, c'est qu'on est tenté de faire des expériences sur des embryons humains pour soigner ensuite les cancéreux, dans un but humanitaire. Alors, pour soigner aussi les maladies chromosomiques, on est tenté toujours de trafiquer quelques petits chromosomes pour regarder ce qui va manquer dans le développement embryonnaire. Oh, il ne suffit pas que l'enfant naisse. Au troisième, quatrième mois, vous avez vu, on arrive très bien à reconnaître et à voir ce qui manque. Hein? Donc, il n'est pas nécessaire d'aller très loin et faire une carte chromosomique qui permet de dire, eh bien, vous voyez, sur tel chromosome, eh bien, là, il y a les pieds, là, il y a la main. Tout simplement parce qu'on a enlevé un petit morceau de chromosome, on laisse pousser. Alors, ça serait bien pratique que l'embryon ne soit pas humain, que ce ne soit pas grave de le manipuler, ça permettrait de dresser une carte chromosomique en vue de rechercher les maladies chromosomiques et de pouvoir les soigner, but utilitaire. Ou alors, ça on ne le dit pas, de les éliminer. Alors là aussi, au point de vue gynécologie, aider les couples stériles, aider aussi les couples féconds à bien réguler les naissances, etc. D'où les législations qui existent en Angleterre ou en Suède qui sont très en avance. La Suède est très très en avance sur tout cela. Je crois que la permissivité est maximum en Suède. Il n'y a aucune limite. Bien. Alors, je donne quelques petites réponses maintenant, ce que je propose comme réflexion aux réponses. Hein. Alors, donc, vous voyez, en ce qui concerne la fusion, par exemple, notons qu'au point de vue biologique, là aussi, hein, on n'y fait pas attention suffisamment. Il peut y avoir le passage d'un donné chromosomique du premier œuf sur le second, avec mort du premier œuf. C'est-à-dire qu'il ne laisse qu'un héritage. Un petit peu de la même manière que un enfant peut naître dans le sein de sa mère et que le père meurt avant la naissance. Il a donné son héritage chromosomique qui se développe désormais dans un nouvel individu. Mais l'individu initial a disparu. Donc ce n'est pas une objection à l'indivisibilité ou à l'individualité. Ces deux cellules pouvaient être au point de départ, ces deux œufs pouvaient être au point de départ, tout à fait des individus, mais le fait de les avoir obligés à fusionner a peut-être obligé l'une des cellules à mourir pour donner son donné chromosomique que l'autre a capté par accident. Bon. Dans les jumeaux, je vous signale aussi cette objection qui est toute simple, dire que le jumeau n'est pas un individu parce qu'il peut se diviser. On peut y répondre en toute simplicité en disant que quand l'éponge, par exemple, qui se reproduit par scissiparité, produit une nouvelle petite éponge, ça n'empêche pas que l'éponge initiale soit un individu. On fait un texte de Bergson là-dessus, qui est très très beau, qui dit en matière de la vie, on est en contradiction perpétuelle. Quand on nous montre, dit Bergson, des petits lombriculus se coupant en deux et générant chacun l'un un pied, l'autre la tête. Il dit, eh bien, on va dire que ce n'était pas un individu avant, puisqu'il s'est divisé. Et Bergson dit, mais enfin, c'était quand même un ver de terre que j'ai pris. Hein, ce n'est pas deux vers de terre, c'était bien un individu. Je l'ai coupé, je l'ai obligé à engendrer l'un une tête, l'autre le pied. Donc il parlera, Bergson, vous voyez, a critiqué ce mot de division. Je vous le signale, parce que je trouve ça très intéressant. C'est Bergson. C'est très curieux, c'est un philosophe. C'est un philosophe qui a critiqué ce point de vue épistémologique de la biologie. Après tout, une individuation d'un jumeau n'est pas nécessairement une division. Ça peut être une génération. Ça peut être... Là, il faut chercher. Bon. En ce qui concerne les échecs, donc je vous ai montré, et je répondrai, laissez-moi vous mettre en marge, confère la fin. Je vous donnerai une autre hypothèse chez Saint Thomas. Qui est chez Saint Thomas? Je vous montrerai comment. Une autre hypothèse pour interpréter ces pertes de la nature. Bon, en ce qui concerne l'avortement, je crois effectivement que là, il n'y a pas beaucoup de solutions, et que ça reste effectivement, c'est très difficile hein, de trouver un argument biologique qui permette de s'en sortir. Là, il y en a très peu. Très peu tiennent. Sur la recherche biomédicale, par exemple, il vient d'arriver qu'on arrive à soigner certaines leucémies d'enfants ou certaines maladies à partir de greffes de moelle osseuse, mais il faut que ça soit un jumeau, ou alors il faut que ça soit un frère ou une sœur. Et alors, des parents viennent d'engendrer un petit enfant dont chirurgicalement on va prendre les cellules pour sauver leur premier enfant. Autrement dit, ils engendrent un enfant pour sauver le premier enfant. Évidemment, ils le sacrifient. Vous voyez, au nom de la recherche biomédicale, à ce moment-là, on risque de fabriquer des individus pour avoir des organes de rechange. Il y a une course actuellement et un commerce, il faut bien le dire, aux organes. Hein, réussir à stocker de la moelle osseuse de fœtus, des organes hein, pour les transplantations, etc. Alors, il y a évidemment tout un domaine qui est aussi un petit peu l'antithèse de la Genèse. Je vous le dis au passage, parce que je trouve ça très, très amusant. C'est un peu triste aussi, d'un autre côté. L'antithèse de la Genèse, hein, Dieu disant à la femme, tu enfanteras dans les douleurs de l'enfantement, et à l'homme, tu travailleras la sueur de ton front. Eh bien, on essaye actuellement d'éviter que la femme porte l'enfant. Autrement dit, on se demande si des utérus de chèvre ou des utérus de guenon ne pourraient pas porter des enfants pendant 9 mois. On est en train de faire ces recherches pour vous dire le matériel humain qu'on sacrifie, au nom, évidemment, de ces points de vue-là. Et pour l'homme, alors, comment va-t-il faire pour ne pas travailler? Eh bien, on y a pensé aussi, on essaye de croiser des singes et des hommes. C'est-à-dire, étant donné que le chimpanzé a 48 chromosomes et l'homme en a 46, et que parfois il peut en avoir 47, 48, on essaye de faire quelque chose. Paraît-il, c'est Schiaparelli qui a dit ça, c'est un professeur italien qui a été faire un stage aux USA, qui a affirmé que les USA auraient réussi à faire quelque chose, mais qu'ils auraient arrêté l'expérience au sixième mois, par peur de ce que ça donnerait. Alors, évidemment, au point de vue chromosomique, ça donnera plutôt un chimpanzé, parce que le moins, ça ne peut pas donner le plus, pas possible, mais un chimpanzé qui c'est ça, ce qu'on ne sait pas, ce qui va être. Hein. Alors, pour vous dire, et alors évidemment, l'homme va faire travailler cette race inférieure, des chimpanzés un petit peu plus intelligents, si c'est possible, qui sauront faire des petites choses un peu plus, alors qui, eux, cultiveront, qui, eux, feront le travail d'esclave. L'homme n'aura plus à travailler. Donc c'est amusant de voir l'antithèse de la genèse aujourd'hui dans cette recherche biomédicale. Pour que vous compreniez aussi hein, qu'il est important que nous cherchions une solution. En vision de sagesse. Hein. Je ne dis pas du tout ça par apologétique, par nécessité de se défendre, par tutiorisme, c'est-à-dire on protège au maximum l'embryon, de façon à ce qu'on ne tombe pas dans les erreurs. Ça, c'est une fausse position. Ce que je voudrais, c'est qu'on cherche aussi, dans une vision de sagesse, étant donné ce que l'homme peut faire, hein, s'il touche à la vie au point de départ, qu'est-ce qu'est cette vie au point de départ? C'est-à-dire c'est un retour en arrière pour savoir quelle est cette valeur. Puisque quand l'homme touche au point de départ, ça peut être une catastrophe sur toute la ligne. Une sélection de la race humaine. Le professeur Giraud ne vous l'a pas dit aussi hier, mais on peut sélectionner le sexe de l'enfant. Par exemple, en ne prenant que les spermatozoïdes 23 dont Y. Hein? Si vous arrivez, et on sait très bien le faire, ça, maintenant, puisque les spermatozoïdes porteurs du Y durent plus longtemps que les spermatozoïdes porteurs du X, on se débrouille pour éliminer les X, et on garde les Y. On est sûr de faire un garçon. Autrement dit, on va pouvoir choisir. Et ce qui va être terrible, c'est que quand on demande à des couples leur préférence, hein, ils choisissent 75% des garçons. Ce qui fait que si on continue comme ça, ben, ça va être l'inverse de ce que nous disait le professeur Giraud hier. Dans un pays, il n'y aura plus que des hommes et non plus de femmes. Bon. Alors, bon, je vous dis tout ça, hein, mais ce que je voudrais maintenant toucher, c'est un point de vue... Alors, un petit point de vue de synthèse. Je passe au point de vue philosophique. Alors, donc, je dis quelques mots sur cette virtus. Cette virtus que pose saint Thomas. Je voudrais qu'on réfléchisse à ce petit point de vue. C'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Au point de vue médical, quand on soigne un grand brûlé qui a une trop grande surface atteinte et qui, de ce fait, on ne peut pas lui greffer une autre surface sur l'autre parce que c'est sans fin. Alors, on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre des petits lambeaux de peau, qui sont des petits rectangles, et en les étirant doucement dans un liquide physiologique et nutritif, eh bien, ça continue de pousser et de se reproduire. Autrement dit, on élargit la peau jusqu'à faire des lambeaux très large. On prend comme ça, par exemple, 3 ou 4, 5 petits lambeaux qu'on referme ensuite avec une suture, tout simplement, et on fait une culture de ces tissus, et on arrive à des surfaces étonnantes que l'on peut appliquer ensuite sur toutes les... J'ai vu comme ça le résultat d'une opération, un brûlé, qui avait un peu plus de 45% de surface brûlée, tout l'abdomen, et de multiples petites greffes qui avaient été faites grâce à des petits lambeaux qu'on avait pris sur le bassin. Enfin, c'était vraiment remarquable. Autrement dit, il semble que nos cellules, les cellules de notre corps, vous savez hein, que nous avons beaucoup de cellules dans notre corps. On a, alors là, les chiffres varient. Hein, l'Encyclopédia Universalis dit 100 000 milliards. Nous avons 100 000 milliards de cellules dans notre corps. Bon, c'est énorme. Ça fait 100 billions. 100 billions. Bon, 100 000 milliards de cellules, cathédrale de molécules. Hein, là, on le comprend bien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces cellules peut être isolée et vivre un petit peu toute seule pendant un certain temps. Elle peut même être mise sous congélateur, dans un congélateur, et y rester théoriquement 25 ans. On n'a pas assez de recul pour, parce qu'on n'a pas fait assez d'expérience sur l'être humain, mais théoriquement, les embryons peuvent rester 25 ans sous azote liquide, moins 196 degrés Celsius. Alors c'est froid, mais la vie est ralentie, très ralentie. Moins 196 degrés, c'est de l'azote liquide. Alors, chacune des cellules de notre corps a cette petite autonomie. Autrement dit, on peut cultiver vos cellules en dehors de votre corps. Tout le monde a fait cette expérience, par exemple, de prendre un cœur de grenouille. On prend le cœur de la grenouille, on l'accroche et puis on le stimule. Hein, ou alors, on le regarde battre, il bat tout seul. Hein, bon, les organes ont une certaine autonomie. D'où la question que je pourrais poser aussi, s'il y a une virtus, y a-t-il une virtus pour tout le corps, une seule, ou y a-t-il une virtus pour chaque cellule? Et y a-t-il une virtus pour chaque organe? Parce qu'au fond, il y a aussi une autonomie organique. Le cœur peut continuer à battre. On peut continuer à faire... Il y a guère que le cas du cœur. Peut-être les poumons, on pourrait continuer un petit peu à les faire ventiler, peut-être pas très longtemps. Mais il y a quelque chose d'assez particulier, une certaine autonomie, qui est effectivement pas totale, hein, mais une certaine autonomie. Alors, pour le spermatozoïde, l'homme qui porte son spermatozoïde ou la femme qui porte ses ovules, ce sont des petites cellules vivantes, vous voyez ? Ce sont des petites cellules vivantes qui s'échappent, qui sont synthétisées par notre corps parmi les 100 000 milliards de notre cellule, avec une particularité, une division particulière, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus que la moitié des chromosomes. Autrement dit, de ce corps, alors je le fais comme ça pour représenter les cellules, bon, vous comprenez ce que ça veut dire, quelques cellules, quelques éléments, qui ont, au fond, une autonomie comparable à celle de notre corps. Vous savez, par exemple, que si jamais quelqu'un, en faisant un bûcheron, c'était arrivé, le cas était arrivé, un bûcheron qui, avec une grosse scie circulaire en pleine forêt, a dérapé et puis s'est coupé le bras, net. Alors, il a eu le courage de se serrer la main avec la main gauche, hein, d'aller sur la route, quelqu'un l'a emmené d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, lui ont dit, mais où est le bras? On lui a dit, mais il a dit, mais il est resté dans la forêt. Allez nous le chercher. Ils ont été le chercher. Il y avait 7 heures entre l'opération et la coupure. Et il a pu récupérer son bras. Donc il y a 7 heures d'autonomie, 8 heures même on peut aller, hein, pour un bras coupé, à condition que ce soit bien coupé. Hein. Si c'est mal coupé, c'est pas la peine. Alors faites les choses bien. Si ça doit arriver. Il y a 8 heures, par exemple, pour un bras, il y a 8 heures d'autonomie. Pour le et plus si on le congèle, plus si on le refroidit, si on le met au frais. Ça vous semble un peu bizarre, mais je crois que c'est intéressant d'entendre parler de tout ça aussi pour connaître un petit peu, hein, ce que c'est que notre corps. Donc il y a une certaine autonomie. La vie de notre bras semble continuer, même séparée de nous, même si ça ne dure pas. Hein. C'est peut-être le propre de l'âme spirituelle, c'est de faire durer au-delà d'un temps que la cellule par elle-même ne pourrait pas faire. Alors, vous voyez que cette notion de virtus est intéressante parce que ça m'expliquerait l'autonomie de ces 100 milliards de cellules que j'ai dans mon corps qui, au fond, sont capables de durer un petit peu toutes seules, oui, de se débrouiller un petit peu toutes seules et de faire des opérations fondamentales de vie, dont la nutrition, la reproduction. Oui, on disait ce matin que l'âme végétative, hein, ça ne pouvait pas être l'âme végétative qui faisait la reproduction, parce que c'est le propre de l'être parfait. Au point de vue biologique, c'est plus tout à fait juste, puisqu'on se rend compte que, hein, chacune de nos cellules sont capables de génération, pas de génération sexuée. C'est peut-être là, hein, ce qui est l'ambiguïté chez Aristote. Il ne parlait que de génération sexuée. Et c'est ça qui fait le vivant parfait. Mais au fond, le vivant fondamental se régénère. Vous avez, par exemple, chaque seconde, 1000 cellules qui se régénèrent dans votre corps. Chaque seconde. 1000 cellules. Voyez. Autrement dit, nous avons une division perpétuelle dans notre corps. Autrement dit, chaque cellule est capable d'engendrer son semblable. Voyez. Donc ce problème de la génération, je crois qu'il faut l'acquitter, peut-être ce concept qui est maintenant dépassé, le propre du vivant parfait. C'est vrai pour la génération sexuée, mais pas vrai peut-être pour cette génération tout à fait fondamentale qui correspondrait à une âme végétative. Donc c'est pour ça, vous voyez, que je voudrais que c'est bon de réfléchir à cette virtus qui pourrait concerner chaque cellule et lui permettre de faire des opérations fondamentales d'une âme végétative. Alors, le mot virtus est quand même plus intéressant que le mot âme. Je vous livre ma réflexion, parce que 100 000 milliards d'âmes végétatives pour une âme spirituelle, ça fait beaucoup d'âmes dans le même individu. Et c'est sans doute pour ça, je vous l'ai expliqué au point de départ, que saint Thomas a dit plutôt virtus que âme. Je me demande si ce n'est pas un des fondements philosophiques, parce que l'âme est quand même quelque chose qui est substantiel, même si c'est végétatif. L'âme de l'homme, elle est ousia, c'est plus que substantiel, elle est ousia. Mais est-ce que la cohabitation de 100 000 milliards d'âmes substantielles ne pose pas ici ce problème? Vous voyez, saint Thomas pose la virtus pour les gamètes, pour la reproduction. Mais est-ce qu'elle n'intéresse pas plus que les gamètes? Voilà la question. L'extension de la virtus ne pourrait-elle pas aller jusqu'à chacune de nos cellules? Alors la question est de savoir, y a-t-il une seule virtus? Parce que quand même, avec le nombre de millions de spermatozoïdes qui viennent féconder l'ovule, il n'y en a qu'un qui passe, c'est certain. Parfois deux, mais c'est un accident. Eh bien, vous avez des millions. Est-ce que c'est une seule virtus pour tous ces millions de spermatozoïdes? Ou est-ce que c'est chaque spermatozoïde qui participe à une virtus? Voilà aussi une question. Je tendrais à dire qu'il y a quand même une participation individuelle à cette virtus. La virtus, c'est quand même une individuation dans chaque cellule au fond de notre corps. Alors, ce qui permettrait de dire que notre âme spirituelle domine, au fond, tout un ensemble des étages, si vous voulez, une espèce d'HLM, une cathédrale, de petites unités vivantes, ce qui fait que, vous voyez, que le vivant humain, le vivant complexe, l'homme, est un des êtres les plus parfaits, puisqu'il arrive à dominer, domestiquer, au fond, toutes les formes de vie dans une complexité remarquable, magistrale. Alors, voilà donc l'utilité de cette fonction, de cette notion de virtus. Alors, ensuite, la difficulté, bien, c'est ce que je disais ce matin. Au fond, à ce moment-là, la virtus n'est-elle pas autant présente chez la femme que chez l'homme, en ce qui concerne les gamètes? Voilà une question qu'on peut poser, sauf évidemment si on restreint la virtus à la génération. Mais alors, il faudra trouver une solution pour toutes ces petites cellules qui ont une autonomie. Mettrez-vous une âme végétative ou une virtus? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose. Alors, la femme, elle, produit un ovule qui, lui aussi, a une respiration. L'ovule consomme de l'oxygène, une certaine nutrition. Elle a une réaction. La preuve, c'est que quand le spermatozoïde a traversé la membrane, aussitôt, l'ovule gonfle cette membrane pour empêcher qu'un autre spermatozoïde réagisse. Autrement dit, elle a, je ne veux pas dire une sensibilité, mais il faudrait qu'on revoie cette question. La question du sens et de la sensibilité. Parce que là aussi, c'est très flou. Il y a une limite qui est très très difficile à faire, autant d'ailleurs en science, peut-être qu'en philosophie. Sensibilité et sens, sensation et sensibilité. Bon, en tout cas, l'ovule semble avoir cette sensibilité. On peut même provoquer artificiellement le gonflement de la membrane pellucide, ce qui prouve que donc il y a quelque chose qui est là tout à fait autonome pour l'ovule. Donc l'ovule a son autonomie. Elle est même capable d'une certaine génération, ce que vous disait le professeur Giraud hier, c'est-à-dire un ovule qui se féconde lui-même et qui engendre évidemment des déchets, des morceaux de peau, des morceaux d'os, des morceaux de dents. Enfin, c'est vraiment épouvantable, c'est horrible. Bon, mais l'ovule est capable, au fond, il a été une cellule, deux cellules, trois cellules, jusqu'à la formation de tissus très complexes, jusqu'à peut-être un milliard de cellules. Voyez, autrement dit, l'ovule peut, mais c'est accidentel, mais en est capable de se reproduire elle-même. Donc génération, pas sexuée, mais une autogénération, une nutrition, une certaine croissance dans la maturation de l'ovule. Il y a une maturation de l'ovule. L'ovule prend de la taille aussi, se gonfle. Et puis, donc croissance, nutrition, respiration et génération. Donc c'est très intéressant de voir que autant le spermatozoïde que l'ovule ont des opérations qui sont des opérations de vivant. Avec en plus chez le spermatozoïde, c'est peut-être là où il y a une distinction qui est très intéressante à faire, qui permettrait de retrouver un fondement chez saint Thomas du côté matériel de la fécondation chez la femme. C'est vrai que l'ovule est beaucoup plus passif et c'est lui qui a les réserves. C'est lui qui a les réserves. Donc si vous voulez, l'ovule par rapport au spermatozoïde est énorme. Je vais vous passer quelques petites diapos après pour vous rappeler cette taille, mais même là j'exagère. Alors c'est vrai que l'ovule a toute la réserve qui va permettre à l'œuf de faire ses premières divisions. C'est vraiment une grosse réserve, mais ça n'empêche que il y a un vitalisme interne au petit noyau de l'ovule comme au noyau du spermatozoïde. La rencontre des deux fait appel à un mécanisme actif des deux côtés, au fond. C'est pour ça que virtus uniquement du côté de l'homme, c'est là où il faut peut-être une autre analogie, comme disait le père Marie-Dominique ce matin, qui est peut-être une analogie qui se prendrait davantage de la biologie. Parce qu'au fond, dans la biologie, il y a une activité mutuelle, tout à fait mutuelle. Alors, ce qui va peut-être nous donner une autre hypothèse, est-ce qu'il n'y aurait pas une virtus chez la femme et une virtus chez l'homme qui ferait que ces deux virtus vont continuer de travailler ensemble dans l'œuf? Parce que, comme vous voyez ici, au fond, c'est le noyau du spermatozoïde qui se déplace tout seul et le noyau de l'ovule qui se déplace tout seul. Autrement dit, il y a comme dans l'œuf, à l'intérieur même de l'œuf, un travail qui continue. Vous voyez, la virtus ou l'âme végétative de l'ovule et la virtus du spermatozoïde semblent avoir une certaine autonomie. C'est comme s'ils cherchaient dans l'œuf leur place, eux-mêmes. Voyez, c'est pour ça que là, on peut tout à fait quitter le moment de la fécondation et comprendre qu'à ce moment-là, il y a un travail qui est un travail qui se fait à deux, toujours à deux. C'est-à-dire que je n'ai pas encore parfaitement une unité. Je vais essayer de vous montrer une autre hypothèse qui va nous permettre d'envisager autre chose sur le moment de l'animation. Alors, je vais vous passer quelques petites diapositives sur ce point de vue biologique qui permettrait d'avoir un autre aspect. Alors, on ne va pas voir grand-chose, je m'en excuse. On ne peut pas mettre l'appareil plus fort, sinon ça va fumer. Alors, si on éteint les lumières, je ne sais pas si ça changera grand-chose. Très bien. Alors, vous voyez ici, donc, je passe d'autres diapos, puisque le professeur Giraud n'a pas parlé explicitement de ce problème-là. C'est pour ça que je voudrais donner ce complément. Je me permets de passer quelques petites diapos pour faire un petit complément. Vous avez donc, vous voyez, la taille qui est donnée à peu près par rapport au spermatozoïde, avec cette gangue, cette membrane, et le noyau femelle qui est ici, qui est en train de se gonfler et de devenir donc le pronucléus femelle. Alors, on passe la diapo. Quand le spermatozoïde rentre, l'ovule produit aussitôt un cône d'attraction, vous voyez, là aussi une sensibilité, qui fait que le spermatozoïde va pouvoir rentrer plus facilement, puis il va y avoir un gonflement immédiat, si vous voulez, de la gangue, de façon à ce qu'aucun autre spermatozoïde ne puisse pénétrer. On passe la diapo. Alors, ensuite, le spermatozoïde perd son flagelle, qui lui permet d'avancer, et puis il va se retourner, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va faire des mouvements, une petite gymnastique, et le pronucléus femelle et le pronucléus mâle vont essayer de se rencontrer. Alors, on passe. Voilà, il va y avoir donc la naissance d'un ce qu'on appelle un petit aster qui va permettre de s'acheminer. Ça va être le petit pédalo qui va permettre à chacun d'arriver l'un vers l'autre et qui permettra aussi, vous allez voir, la séparation des chromosomes. Donc c'est le stade dit spermaster. On passe. Ensuite, il y a le stade amphiaster. Vous voyez que jusqu'à présent, c'est vraiment une mobilité qui est propre au spermatozoïde et encore propre à l'ovule. Autrement dit, on est toujours dans l'œuf. Et pourtant, il y a une autonomie qui reste interne, qui est assez particulière. Alors, à ce stade amphiastère, il y a une duplication donc des petits éléments qui vont servir ensuite à combler, à prendre les chromosomes et à les mettre dans les deux cellules. On passe. Alors là, diastère, je vous rappelle que les chromosomes ne sont toujours pas fusionnés. C'est-à-dire que vous avez toujours les chromosomes du père et les chromosomes de la mère. Vous voyez, l'embryon n'a pas encore son chiffre. Vous voyez, pour moi, je crois que c'est très important pour essayer de voir plus précisément quel pourrait être le moment de l'animation. En tout cas, vous voyez qu'on a dépassé le stade de la fécondation. La fécondation, elle est passée depuis déjà une dizaine d'heures. Et pourtant, les chromosomes du père et les chromosomes de la mère sont toujours divisés. L'embryon n'a pas encore son stock chromosomique. Alors, stade diastère, qui va préparer, vous voyez, les chromosomes, comme disait le professeur Giraud hier, vont faire sauter leur petite membrane, et là, il va y avoir un brassage chromosomique. On passe à la prochaine diapo. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'amphimixie. À ce moment-là, les chromosomes s'apparient, vous voyez, et l'embryon commence à avoir ses chromosomes. Mais ce n'est pas encore complètement terminé. Ces deux astères, ici, vont faire des petits fuseaux sur lesquels vont s'accrocher les chromosomes et qui vont leur permettre de s'individualiser, comment dire, de donner le stock génétique des premières cellules. Alors, la difficulté, c'est qu'il va pouvoir y avoir des accrochages. Par exemple, dans la trisomie 21, on va passer la diapo suivante, qui est la métaphase. Vous voyez, les chromosomes sont appariés cette fois-ci, mais le stock peut encore changer un petit peu, parce que dans cette montée des chromosomes à droite et à gauche, il peut y avoir des chromosomes qui s'accrochent. Par exemple, dans la trisomie 21, la 21e paire de chromosomes, au lieu de donner deux chromosomes 21 des deux côtés, il va y avoir trois chromosomes d'un côté et un de l'autre. Vous comprenez? Or, la première cellule qui n'a qu'un chromosome 21 n'est pas viable. Elle va donc disparaître. Ce qui fait qu'il ne restera qu'une cellule, mais qui a trois chromosomes 21, qui va donner ce qu'on appelle le mongolien. Autrement dit, le chiffre de l'embryon semble être donné à l'étape suivante, qu'on appelle l'anaphase, c'est-à-dire les chromosomes montent vers, si vous voulez, les pôles cellulaires, et une fois que cette anaphase, métaphase-anaphase, est terminée, si vous voulez, le stock chromosomique est terminé. L'embryon a son stock, il a son chiffre. Eh bien, de la fécondation à la mort, si vous voulez, c'est un des moments les plus importants au point de vue biologique. C'est le moment le plus important, puisque c'est l'acquisition du chiffre de l'embryon. Eh bien là, nous sommes à la 30e heure après la fécondation. 30 heures après la fécondation. Tu passes à diapo. Voilà la fin de la première segmentation, qu'on appelle donc la télophase. On est à 30 heures, 30-35 heures. Le professeur Giroud disait même davantage. Encyclopédia Universalis, 35. Mais peut-être que l'encyclopédia est dépassée aussi, hein, parfois. Bon, à vous de chercher. Bien. Alors, il va y avoir la première segmentation. Donc, les prochaines diapos, vous les connaissez. Vous avez le stade première division cellulaire avec une cellule qui est plus grosse. On passe vite. Donc, le stade qui, normalement, est un stade de 3 cellules et non pas 4. Ici, c'est un petit peu fait rapidement. Tu passes. Ensuite, stade 16 cellules. Tu passes. Voilà. La morula, qui est 64 cellules. Et le blastocyste, qui est donc, on est déjà là au 7e jour. Et là, effectivement, chaque chromosome, chaque cellule, va recevoir comme une espèce de cache. Vous savez, quand vous avez des grilles qui peuvent avoir plusieurs messages, vous avez un espèce de carré où il y a plusieurs lettres. Ça ne veut rien dire quand vous le regardez. Mais vous regardez avec un cache, ça vous fait un mot. Vous enlevez le cache, vous en mettez un autre, ça vous fait un autre mot. Vous comprenez? Eh bien, le stock, tous nos chromosomes de notre corps sont les mêmes que le point de départ, mais ils ont subi un cache qui vont les obliger à faire une fonction bien précise. Et c'est à ce stade que chaque cellule va devenir une cellule de foie, une cellule de rein, une cellule nerveuse, une cellule, etc. Mais vous voyez, à la limite, c'est moins parfait que la cellule initiale. Les cellules adultes sont moins parfaites que les cellules initiales. C'est très curieux ce renversement. Alors que les Grecs disaient plutôt l'inverse. L'adulte était parfait par rapport à l'embryon. C'est très intéressant de voir cet aspect-là. Et dernière diapo, mais qui passera pas, si. Bon, on l'a déjà vu ça hier, ça n'a pas grosse importance. Les différents stades, alors on passe ensuite, après une semaine, plusieurs semaines, quelques mois, avec les empreintes digitales, déjà ici. Je ne sais plus à quel stade ça en est exactement. Bon, donc on arrête ça. Ce que je voudrais que peut-être on prenne conscience, c'est qu'au fond, cette anaphase est le moment où l'embryon acquiert toute son autonomie. Et je voudrais qu'on puisse parler ici de ce mot de conception. Je saute, mon plan est à l'envers, je vais faire le 4 avant le 3. Est-ce que ce n'est pas là qu'est le vrai mot conception? C'est-à-dire que le travail de l'homme et de la femme. Parce qu'au fond, le spermatozoïde et l'ovule, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ce sont des cellules qui se sont échappées du corps de la femme et de l'homme, et qui au fond portent leurs données chromosomiques, qui ont été engendrées et qui portent leur virtus. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très étonnant, c'est que cette virtus peut continuer, comme nos petits lambeaux de peau peuvent continuer à être cultivés, hein, dans un liquide physiologique. Donc, le travail de l'homme et de la femme, ou du moins de leurs petites cellules qui ont leur virtus, qui sont les leurs, hein, qui font partie de leur corps, continuent leur travail jusqu'à la 30e heure. Et à partir de la 30e heure, il semble que ça soit autre chose au point de vue biologique. Hein. Alors, j'aurais tendance à dire que, bon, à ce moment-là, la conception s'achève. À l'anaphase, la conception est achevée. Ce qui fait qu'il y aurait une distinction biologique à faire entre le mot fécondation et le mot conception. Autrement dit, voyez, le stade initial, c'est-à-dire celui-là, le stade où le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, s'appellerait fécondation. Et le stade de l'anaphase où l'embryon a son chiffre complet s'appellerait biologiquement conception. C'est-à-dire que l'embryon est conçu. Il y a quelque chose qui est terminé, si vous voulez, au point de vue de l'œuvre, au point de vue du travail, au point de vue du vivant. Et il est vrai, au point de vue biologique, qu'à ce moment-là, eh bien, tout est remis dans, comme disait Monod, hein, la nécessité. Hein, c'est-à-dire que le stock chromosomique étant donné, eh bien, ça se duplique. Alors, il peut y avoir des accidents, c'est vrai, jusqu'au 40e jour. C'est pour ça qu'on ne donne pas de rayons X. La rubéole, la toxoplasmose sont autant de maladies qui peuvent toucher parce que l'embryon reste fragile. Il reste fragile. Mais théoriquement, hein, si tout s'est bien passé, eh bien, ça va tout droit et il se fabrique lui-même son cerveau. Petite objection à ceux qui disent que c'est le cerveau qui fait l'unité du corps. Au point de départ, il n'y a pas de cerveau. L'embryon se le fait. Voyez. Donc c'est intéressant aussi de le voir comme ça. Alors comment répondre maintenant au fait que dans la nature, il y a beaucoup de pertes. C'est là où je vais prendre une autre hypothèse, peut-être, qu'on a oubliée chez saint Thomas, mais dont on a parlé ce matin. C'est que l'âme ne peut venir que dans un corps organisé. Eh bien, je vais reprendre ça, non pas en philosophe, mais en biologiste ou en biologie. C'est-à-dire que, si par hasard, l'anaphase s'est mal passée, si le sperme comporte des anomalies chromosomiques, ce qui peut arriver. Une méiose, enfin une division qui se passe mal dans la production des spermatozoïdes chez l'homme ou dans la production de l'ovule chez la femme. Par exemple, après 40 ans, il y a plus de risques de malformation. C'est pour ça que la science est très prudente. Les enfants après 40 ans, toujours des examens gynécologiques très prudents, très précis, parce qu'il y a plus d'anomalies chromosomiques. Après 40 ans, il y a un peu plus de fatigue. Alors, ça peut créer, vous voyez, des divisions qui sont ou plus lentes ou mal faites, et il peut y avoir des anomalies chromosomiques. Autrement dit, si par hasard il y avait une anomalie chromosomique dans le spermatozoïde, ou dans l'ovule, ou dans cette anaphase, qui ferait que l'embryon serait trop mal formé, mais chromosomiquement, il va peut-être faire un petit paquet de cellules, mais qui va mourir, je ne sais pas moi, très rapidement, ou faire une fausse couche, ou je ne sais pas. À ce moment-là, il y aurait une telle inorganisation, vous voyez, le stock chromosomique serait tellement informe qu'on pourrait se demander à ce moment-là si, je prends un mot alors cette fois-ci un peu plus sagesse, est-ce qu'à ce moment-là, Dieu communique une âme spirituelle à un corps qui serait trop inorganisé? Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, on pourrait se poser la question, les déchets de la nature, hein, ces 60% de déchets embryonnaires, pourraient résulter tout simplement d'une malformation, voyez, d'un mauvais travail, des virtus, alors je dis du père et de la mère, mais on pourra discuter, savoir si c'est le père tout seul. Hein. Bon, je dis des virtus du père et de la mère, un mauvais travail qui finalement a fait quelque chose que Dieu ne peut pas considérer comme le réceptacle d'une âme spirituelle. Alors, ce qui donne une autre hypothèse qui est en germe chez saint Thomas, puisque saint Thomas insiste, mais lourdement, hein, lourdement, en disant que l'âme, c'est l'acte d'un corps organisé. Et il souligne, organisé. Eh bien, biologiquement, on peut aller un petit peu plus loin que saint Thomas, parce que pour lui, l'organe, c'était le foie, c'était le cerveau, c'était l'estomac, l'intestin. Est-ce que pour le biologiste, ce n'est pas tout simplement le chromosome au point de départ? Et un corps organisé, est-ce que ça ne commence pas avec la réussite de la conception? Vous voyez? Une conception réussie avec des chromosomes qui sont valides, hein, qui se tiennent, eh bien, fait un corps qui biologiquement est organisé. Si on le laisse bien faire, eh bien, normalement, ça doit donner un individu normal, sauf accident, évidemment. Mais ces accidents, hein, si je vous ai parlé de Néandertal, vous comprenez qu'il y en a eu des accidents. Hein, et que là aussi, il faut que les intègre et qu'on ne se situe pas seulement en fonction des accidents. Hein, qu'on réfléchisse en fonction de ça. Ce qui fait que, personnellement, je reste un petit peu partisan de l'animation dès la conception. Mais je précise bien, la conception, dans ce sens. C'est-à-dire, l'âme pourrait très bien être donnée à l'embryon au moment où son stock chromosomique est complet, à une condition, c'est que ce stock soit valide, que ce stock soit capable de donner la vie. Vous voyez ? Alors, ceci permettrait de tenir, évidemment, un argument de sagesse que j'ai donné dans, que j'ai proposé dans mon petit ouvrage sur la vie et la procréation, en disant qu'il y a une convenance à ce que l'âme spirituelle soit donnée à partir du moment où l'embryon a son donné complet. Pourquoi ? Parce que cet embryon, ayant ce donné complet, a une perfection biologique. Il a une perfection biologique. Et en plus, chacune des cellules, c'est très étonnant, et même la gémellisation pourrait être un exemple de cette perfection. Faire un jumeau. Parce qu'au fond, le jumeau, il se fait après la première division. C'est assez étonnant. Ça ne nous empêchera pas d'avoir un problème à résoudre au niveau de l'animation pour le jumeau. On y reviendra, si j'ai du temps. Oui, un petit peu. Bon. Autrement dit, vous voyez, on pourrait maintenir cet aspect de vision de sagesse, étant donné que l'embryon a son stock, qui est parfait, s'il est bien parfait, il a son stock et son donné, ne conviendrait-il pas que l'âme spirituelle soit présente à ce moment-là, puisqu'il y a là une très belle individuation biologique, un moment très fort. Voyez. Ce qui n'empêcherait pas, avant, puisqu'il y a 30 heures de travail pour arriver, 30 heures, le professeur Géraud disait 48, donc ça peut être même encore plus long, de travail mutuel qui pourrait, à ce moment-là, manifester le projet, voyez, le plan de Dieu, dans le même œuf, vous voyez, c'est-à-dire un travail où l'homme et la femme, au fond, continuent un certain travail ensemble, dans une certaine unité qui manifesterait, à ce moment-là, bien, le projet de Dieu. Et ce projet, eh bien, s'achèverait sur si oui ou non il y a une perfection. Si ce travail s'achève bien, à ce moment-là, pourquoi est-ce que la coopération de Dieu n'interviendrait pas à ce moment-là? Alors, ça a cet avantage, si vous voulez, au point de vue philosophique, de rendre compte de cet aspect de sagesse,